Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, jeunes âmes au cœur, soignants, bonjour et bienvenue. Vous écoutez L'Onde Curieuse sur Fréquence 7 et vous avez bien raison, d'autant que c'est la dernière de l'année. Aujourd'hui, on va parcourir quelques oasis dans le désert médical ardéchois qui, à l'instar d'un tiers des communes françaises, a vu l'assèchement des forces vives médicales sous le vent dessiccateur du numerus clausus. Un désert médical côtoyant une jungle luxuriante de thérapies en tout genre. Alors, 2030 devrait être d'ailleurs en Ardèche l'année la plus aride. Je ne parle que d'un point de vue médical, hein, une seule bonne nouvelle à la fois. Heureusement, pour remédier à la situation, médecins et élus ont déployé une imagination fertile et on se met à tout vent des graines plus ou moins prometteuses. On se souvient l'année dernière d'une campagne de communication décalée pour recruter de nouveaux médecins dont notre invité, Julie Audigier, était venue nous parler. Et aujourd'hui, j'entends que d'autres semis sont en train de pousser. Comme souvent dans mon travail de journaliste sérieuse et professionnelle, j'utilise une méthode souvent infaillible pour préparer mes interviews et affiner les questions, celle de l'anagramme. Mieux que l'utilisation du pendule, celle de l'anagramme révèle souvent bien des choses qui passeraient inaperçues. Je me questionnais donc sur la relève médicale en Ardèche, notre sujet du jour, en interrogeant la phrase à anagrammer « loup médecin ardéchois ». Oui, parce que quand il s'agit de rite ou de rituel, même si c'est littéraire, il ne faut pas hésiter à utiliser la langue de nos ancêtres. Et je suis restée perplexe quant à la réponse. L'anagramme exact de cette phrase, « loup médecin ardéchois », donc les mêmes lettres composées dans un ordre différent, est l'idée choc des Roumains. Alors j'étais stupéfaite et j'ai investigué. Et en effet, une délégation de professionnels d'élus ardéchois et drômois s'est fendue d'une idée surprenante, se rendre en Roumanie pour draguer les futurs médecins francophones ou français formés à Cluj, en Roumanie, et les attirer dans les deux départements. L'anagramme n'a pas vu pourtant l'une des plus belles idées qui vient de se concrétiser, la possibilité de faire sa première année de médecine à la faculté de Lyon Sud, oui, mais délocalisée à Aubenas, et ce, dès la rentrée 2025. Alors, il faudrait peut-être que je change de méthode professionnelle et que je délaisse l'anagramme pour le pendule. Peut-être, je vais essayer dès 2025. En tout cas, la culture du soin se restaure petit à petit sur notre territoire grâce à ces graines diverses plantées avec attention, ferveur et obstination. Et on en parle avec notre invitée, Julie Audigier, médecin radiologue au centre hospitalier d'Aubenas et présidente de la commission médicale d'établissement. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être merci là à vous. Parmi nous. Bonjour aussi à celui qui prend soin de nos oreilles. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Toujours à la réalisation 2024. Qu'en sera-t-il en 2025?
Ouh.
Ouais. Bon, on s'en parle dans quelques jours. Et avec nous aussi, celle qui prend soin de vos soirées, de vos week-ends, Clara. Salut Clara.
Salut Sophie.
On commence donc par l'agenda.
Et on débute cet agenda avec une rencontre demain de 16h à 18h à la médiathèque Jean Ferrat à Aubenas autour de la musique. Un moment pour découvrir ce monde musical qui ne manque pas d'originalité et de surprises, mais aussi pour découvrir des musiciens iconoclastes, étranges ou singuliers. Un spécialiste du genre sera présent pour vous éclairer. L'entrée est libre et pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site internet ou leur page Facebook. Demain, toujours de 16h30 à 21h30, c'est le marché de Noël du Pas de Côté, ce café associatif à Mercué. C'est le moment de venir faire vos emplettes pour vous faire plaisir à vos proches, trouver de bons produits locaux, peut-être pour les cadeaux de fin d'année. Sur place, vous trouverez aussi une petite restauration, mais aussi des ateliers collaboratifs. Et tout ceci se fera en musique avec le groupe Deka et Jat, un duo piano-voix qui propose des reprises de chansons d'amour jazz. L'entrée est libre et toutes les informations sont sur le site internet. Et on continue cet agenda avec un concert au bistrot culturel La Passerelle à la Blachère, demain, encore et toujours, à 21h. Ils vont accueillir Christelle, un duo unique mêlant la douceur de la cora et la profondeur de la basse. Christelle et Christelle vous propose un voyage original par la fusion de deux instruments, la cora qui a 21 cordes et la basse qui a 5 cordes. associant modernité et tradition d'Afrique de l'Ouest et du Congo. Le concert est à 21h à la passerelle et l'entrée est à prix libre. Et on termine cet agenda avec une rencontre dédicace demain de 10h à 12h à la librairie du Château d'Aubenas. Bruno Plancher viendra présenter son premier livre, Un pas devant l'autre, sorti aux éditions Maya. Cet ouvrage aborde son parcours personnel et il met aussi en lumière le métier d'aide à domicile. Une profession souvent méconnue et pourtant essentielle dans notre société. À travers ce livre, il a souhaité partager une expérience humaine riche et marquante. Pour en discuter avec lui, venez demain à la librairie du Château à Aubenas de 10h à midi.
Merci Clara pour cet agenda. Et oui, on termine avec du soin, prendre soin. Eh bien, on va en parler pendant plus de 20 minutes ensemble, avant le choix musical de notre invité, qui est déjà un peu un soin.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 di la 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 di la la di la 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 di la la di la la di la 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 di la 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 di la.
Emmenez-moi de Charles Aznavour, mais ça a du souffle. 1967, il y a presque 58 ans maintenant, incroyable. Issu de l'album, la première fois, Entre deux rêves. Alors ça place un petit peu le niveau de cette interview. Du souffle, emmenez-moi entre deux rêves. Merci Julie Audigier, médecin radiologue au centre hospitalier d'Aubenas et présidente de la commission médicale établissement, d'avoir choisi ce titre pour nous. Et pourquoi d'ailleurs ce titre ?
Parce qu'il y a beaucoup de sens justement dans ce projet dont on va parler d'Antenne Passe. Je trouve que c'est une chanson qui est à la fois très joyeuse, qui est intergénérationnelle, je vais y arriver. C'est une chanson que je mets à fond moi dans la voiture avec les enfants et on chante dessus. Et je trouve que ça, voilà, il y a un côté un peu, quelle que soit la génération, ça nous parle parce que le rêve parle à tout le monde. Que le rêve c'est un moteur énorme de l'action. Que c'est un élan vital en fait, et ce projet il est parti un peu de ça, un peu d'un rêve, un peu d'une idée un peu qui paraissait peut-être un peu folle, mais qui a emporté comme ça, qui nous a emmenés, et emmenés loin, et on est bien content d'être arrivés.
Alors, on parle justement de ce projet, c'est-à-dire une antenne PASS, donc rappelez-nous ce que c'est PASS.
PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé, alors on parle de première année de médecine, mais en fait c'est plus large, parce que ça regroupe médecine, maïeutique, donc pour être sage-femme, odontologie, pour être dentiste, kiné et pharmacie. Donc c'est la première année par laquelle il faut passer pour pouvoir accéder à un de ces cinq métiers.
D'accord. Donc cette antenne PASS, elle va être ouverte, donc la possibilité de faire sa première année de parcours d'accès spécifique de santé ou première année de médecine à Aubenas, à l'hôpital d'Aubenas, dès septembre 2025, avec l'ouverture des candidatures le 15 janvier.
Ah, oui.
C'est ça.
Alors, je crois que sur Parcoursup, ça apparaît déjà là, à partir de... Enfin, depuis hier, ça apparaît. Alors, je ne sais pas si on peut encore candidater. Je ne maîtrise pas le côté technique Parcoursup, mais effectivement, on peut candidater, en tout cas à partir de janvier, c'est sûr.
Alors déjà, bravo, parce que j'ai l'impression que justement, c'était un rêve et qu'il y a eu les conditions pour le mener jusqu'au bout. Mmh. Alors, racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet.
Alors, la genèse, donc ça fait 5 ans que j'y travaille, qu'on y travaille. D'abord, dans le cadre de notre collectif de médecins, le CODADAM, on s'est regroupé en se posant la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, sur le territoire, en tant qu'acteurs de santé, pour améliorer la situation, améliorer les parcours de nos patients, mais aussi nous rendre attractifs pour que des jeunes médecins, ou des moins jeunes d'ailleurs, viennent s'installer chez nous. Donc on a travaillé auprès des internes, on a fait des journées d'accueil des internes, des week-ends d'intégration, etc., qu'on continue à faire, hein, on fait des soirées, etc. On a travaillé entre nous, on a fait des petits groupes de travail, et puis il y a eu cette idée de se dire, mais en fait, pourquoi ne pas favoriser la formation de jeunes de notre territoire ? Parce que ce seront ceux qui seront les plus présupposés pour revenir s'y installer en tant que professionnels. Donc en fait, on s'est dit, il faut travailler les trois temps, le temps présent, le maintenant tout de suite, comment peut-on être attractif ? Donc on a essayé de jouer avec les internes, etc. Comment ensuite on peut travailler le moyen et le long terme pour faire en sorte de planifier aussi l'offre de soins plus tard, donc d'avoir cette anticipation. Et donc, on a pris exemple sur ce qui se fait déjà sur le territoire hexagonal. Les antennes PASS, elles existent depuis une dizaine d'années. Il y en a Bordeaux qui a fait plusieurs antennes, à Agen, Dax, Pau, il y a les Pays de la Loire avec Angers, Le Mans, Laval, Cholet, enfin bref, il y a plusieurs antennes sur le territoire et on s'est dit, pourquoi pas Aubenas ? Pourquoi pas ? Et donc, moi j'ai bâti un rationnel, j'ai écrit un petit rapport, je l'ai présenté aux élus. Donc on a fait une sorte de comité de pilotage, comme on dit, avec le département, les sénateurs, le député, qui est aussi conseiller régional. Et donc on a évoqué cette idée, et on a la chance d'avoir eu quand même des politiques qui nous ont suivis, puisque le département s'est saisi du sujet et a porté politiquement le sujet. Et donc il y a d'autres aussi, on a fait un courrier où il y a eu plusieurs signataires, dont des associations de médecins, donc notre association le CODADAM, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, dont entre-temps j'étais devenue la présidente de CME, l'association ABM, qui est une association de médecins du Cheylard, la vallée du Cheylard, le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, le conseil de l'ordre des médecins. Donc on a été un certain nombre de signataires. Et on a fait valoir ce projet auprès de l'université de Claude Bernard Lyon 1, qui est donc le grand chef finalement de la faculté de médecine. Mmh. Et peu à peu, le dialogue s'est amorcé, et on a beaucoup échangé, ils sont venus se rendre compte sur place, il y a eu plein de réunions, et peu à peu, on a levé un peu tous les freins qui étaient nombreux, et de manière collective, et c'est ça qui est chouette aussi,
c'est, ça.
C'est que c'est un travail qui est territorial, qui est vraiment qui part du territoire, et qui est transdisciplinaire, parce que ça... ça a mobilisé des acteurs de la santé comme nous, ça a mobilisé des élus, ça a mobilisé des lycées, parce que voilà, à chaque fois que je rencontrais moi les proviseurs ou les profs, ils étaient tout à fait partants, enfin ils trouvaient que c'était un beau projet, donc on a été vraiment très soutenus. Et grâce à cette énergie collective, on a pu nous emmener voilà, et réussir à obtenir le go officiel au mois de mai de cette année pour la rentrée de septembre 2025.
Alors il y avait un précédent aussi pour l'université de Lyon, puisqu'en 2022 a été ouvert une antenne à Bourg-en-Bresse. Oui. Donc vous serez la deuxième.
Alors on est la deuxième antenne passe de l'université Claude Bernard Lyon 1, mais Bourg-en-Bresse est rattachée à la faculté de médecine Lyon-Est, et nous on sera rattaché à la faculté de médecine Lyon-Sud. Voilà, il y a une sectorisation en fait en fonction du territoire géographique.
Et peut-être d'ailleurs pour les futurs étudiants, pour les lycéens actuellement qui nous écoutent, qui se disent mais on est dans l'académie de Grenoble.
Oui, c'est toute la complexité de notre système administratif français, vous savez. On aime bien faire dans la complexité. Et donc l'Ardèche a la particularité, effectivement, d'être attachée à l'Académie de Grenoble. Donc théoriquement, on devrait être en études supérieures vers Grenoble. Mais on est subdivision sanitaire de Lyon. Et donc, quand on a monté ce projet, on s'est dit qu'il fallait absolument que si on formait des jeunes de notre territoire, ils puissent aussi revenir en tant qu'internes, en tant que stagiaires, en fait. Parce que nous, on accueille des stagiaires à l'hôpital, donc des internes, c'est-à-dire des étudiants de troisième cycle, ceux qui apprennent leur spécialité. Et on a souhaité aussi accueillir des externes, donc des étudiants de deuxième cycle, donc de la troisième à la sixième année. Et donc l'idée, c'était que si on formait des jeunes, ils puissent revenir en tant qu'externes ou en tant qu'internes. Voilà, créer une vraie implantation sur le territoire et une dynamique locale. Donc ça n'avait pour nous pas trop de sens de faire ça avec la faculté de médecine de Grenoble, puisqu'après, ils ne pouvaient pas revenir en stage chez nous, à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Lyon. Et Lyon a tout à fait compris la problématique, et tout le monde a bien compris, en fait, hein, les enjeux, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour nous, pour le territoire. Et c'est comme ça qu'effectivement, on a un peu contourné la carte académique.
Mais il y a aussi un intérêt pour l'université de Lyon, puisque ça désengorge aussi un peu les services d'étudiants stagiaires qui viennent dans les services. Ça permet justement de d'étendre un petit peu.
Tout à fait. En général, dans ce genre de projet, c'est souvent des effets d'aubaine partagés. Hein, c'est-à-dire qu'on est gagnant-gagnant. La faculté, elle va accueillir plus de 40% d'effectifs supplémentaires là, dans les années qui viennent. Donc, ils risquent d'être en difficulté pour justement accueillir les étudiants en stage. Donc, ils sont tout à fait favorables à l'ouverture des terrains de stage en périphérie. Nous, historiquement, on accueille donc des internes depuis des décennies à l'hôpital. Et puis, quand je suis devenue présidente de CME, j'ai souhaité aussi qu'on puisse accueillir des externes, donc des étudiants de deuxième cycle, de manière à créer une dynamique locale de jeunes, parce que les jeunes appellent les jeunes. Les externes sont les internes de demain, qui sont les médecins de demain. Donc c'était tout un processus. Et il fallait pouvoir travailler toute la chaîne du processus. Et suite à notre demande, la faculté, au contraire, a été trop heureuse de pouvoir compter sur nous aussi pour la formation de ces étudiants. Donc c'est du gagnant-gagnant.
Alors on va entrer un petit peu dans le détail, essayer de se projeter. Le PASS, donc, d'abord, c'est ouvert à combien d'étudiants?
Alors, effectif cible d'une quarantaine de places.
D'accord. Qui vont donc prendre place dans les locaux de l'hôpital?
Alors, ça aussi, c'est innovant. On a souhaité le faire au sein de l'hôpital parce que symboliquement aussi, c'est important. C'est-à-dire que on s'amorce vers des études de santé. Il faut qu'on puisse avoir... c'est mieux de pouvoir voir l'environnement de santé et pouvoir avoir comme ça un lien, même indirect, avec les soignants, avec les professionnels.
D'être imprégné.
Voilà, d'être imprégné, c'est vraiment important parce que ça remotive. Il y a plein de moments en première année où on est démotivé, hein, où c'est très compliqué... C'est à la fois, comme disait le docteur Subtil qui est venu présenter le PASS, à la fois une course de sprint, mais sur un temps de marathon. Donc voilà, il y a des moments, forcément, on est essoufflé, on se demande, mais à quoi bon, pourquoi on fait ça? Et puis finalement, de croiser des blouses blanches, et puis des fois même de discuter 5 minutes avec un soignant, un médecin, ou de voir des patients, et ben ça regalvanise, quoi. On sait pourquoi on est là, et pourquoi c'est dur, mais bon, voilà, on sait pourquoi. Et pour nous, professionnels, c'est aussi, je pense, très enrichissant, parce que ce contact avec des jeunes en formation nous re-questionne aussi sur notre métier, ça nous challenge hein, des fois, alors pas forcément en passe, mais sur les externes et les internes, ils nous posent des questions qui nous obligent aussi à reconsidérer notre métier, à réfléchir sur le sens, à réfléchir sur nos pratiques. Donc c'est un cercle vertueux en fait, ça nous pousse vers une réflexion beaucoup plus riche, vers une exigence envers nous-mêmes et envers eux, qui est vertueuse. Donc au sein de l'hôpital, c'est important, voilà, que ce soit dans l'enceinte. Alors en plus, le lieu de la passe, la passe au charme, ça... voilà. Mais le passe sera implanté entre l'IFSI, qui est l'Institut de formation des soins infirmiers et IFAS, des aides-soignantes, et l'hôpital. Donc il est dans l'enceinte de l'hôpital, mais un tout petit peu en retrait, et proche de l'IFSI, donc ça crée une sorte de mini-campus santé qui est aussi sympa, parce que ils croisent des jeunes, etc., il y a des liens qui peuvent se former.
Il y a toujours cette question qui vous tient vraiment à cœur, et pour cause, de dynamique, de vraiment de générer une dynamique, et une dynamique d'envie et de désir partagé par différents jeunes et par différents acteurs de la santé. Vous disiez juste avant, hors antenne, que même pour les professionnels, pouvoir parler de leur métier à des jeunes, ça redonne du sens, en fait. Ça redonne envie.
Oui.
L'envie que peut-être, à un moment donné, justement, par lassitude, par épuisement, on a un petit peu oublié. Et ça...
Oui, tout à fait. En fait, on est dans un moment qui est un petit peu compliqué pour nous soignants, parce qu'on est soumis à des injonctions un peu paradoxales. Il faut faire de la qualité, mais en même temps, il faut aller vite, il faut faire beaucoup pour répondre aux besoins, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Là, là. Donc, on est tiraillé entre la mission quantitative, on va dire, et ce que nous, on souhaiterait faire en termes de qualité, d'accompagnement. Et donc, il faut trouver un juste équilibre cure-care, donc cure, traiter, soigner, sous l'aspect technique de la médecine, c'est-à-dire la performance technique, la performance biomédicale, et puis le care, où c'est vraiment l'accompagnement humain. Et c'est vrai qu'on est un peu frustré de cette dimension, souvent, à l'hôpital, depuis quelques années. Et finalement, ces temps-là, comme cette journée des métiers qu'on a fait la semaine dernière, donc qui était une journée porte ouverte à destination des lycéens, où les lycéens ont pu, sous un format de speed dating, rencontrer différents professionnels de santé. Alors ça allait de orthophoniste, kiné, infirmière, médecin, chirurgien, enfin voilà, il y avait un peu plein de corps de métier. Et ben ce temps-là aussi, c'est un temps où nous, soignants, on peut parler de notre métier avec ce qu'on y met comme sens, nous, et se rétablir, voilà, le pourquoi on fait ce métier. Même si des fois c'est dur, même si des fois on aimerait changer parce qu'on s'y retrouve pas, parce qu'on est frustré de plein de choses, d'en parler, ça permet de rétablir aussi un amour de notre métier, un sens. Et en fait, c'est hyper important, le sens. Et puis c'est des métiers, l'éducation, la santé, c'est des métiers où s'il n'y a pas le sens, plus d'intérêt, quoi. On est plus performant, on souffre, on fait souffrir. Donc c'est des temps qui permettent vraiment de restaurer quelque chose, de la réparation. Mmh. C'est chouette. Et d'ailleurs, ça a été super. On a accueilli 80 lycéens, quand même. Donc, je remercie, d'ailleurs, toutes les équipes qui se sont mobilisées, parce que c'était vraiment pas neutre d'arriver à organiser ça. Notre responsable de com a fait un super travail. Les équipes se sont vraiment mobilisées. Ça a été chouette, parce que là aussi, ça crée une dynamique. Voilà, on est fiers à la fin de la journée. On est fiers d'avoir partagé ça. Et puis, les lycéens, je pense, ont été contents aussi.
Et donc, peut-être certains seront là, enfin, en tout cas, vous postulez pour cette première année de PASS. Alors, on en était justement à ces côtés très pratiques. Donc, comment ça va se dérouler? On l'a vu, ce sera au sein de l'enceinte de l'hôpital. En visioconférence?
Oui, alors par contre, c'est un système, c'est pas la visioconférence classique, c'est pas le petit écran. Là aussi, c'est un système qui est innovant, je crois, en France. Je crois qu'il n'y a pas d'autre système que celui qu'on va avoir. On a un dispositif 1:1, c'est-à-dire qu'on aura l'écran, le mur du fond de la classe sera un écran géant, de manière à ce qu'on puisse avoir le prof en grandeur nature. Donc on aura l'impression de l'avoir en face de nous, quoi. Et pareil, on aura un système audio qui permettra de faire en sorte que quand un élève parle un peu fort pour poser une question, par exemple, monsieur, j'ai pas compris, il soit capté et automatiquement ce soit que le prof de l'autre côté entende la question, comme s'il était dans la pièce. Donc on n'aura pas de sentiment d'éloignement comme on peut avoir en visio, où il y a des fois des temps de latence aussi, parce que le temps qu'on appuie sur je veux prendre la parole, etc. Là, pas du tout, ce sera hyper interactif. Et c'était tout l'intérêt aussi de pouvoir avoir des conditions qui soient identiques ou quasi identiques à celles de si on était en place dans la classe Alliance Sud, dans l'amphi. Mmh.
Donc ça se fera bien évidemment avec les professeurs de Lyon Sud. Y a des tutorat aussi.
Oui, voilà, parce que bon, alors la vraie question qui revenait très souvent, c'était la question des boîtes à colle. Vous savez que première année, ça reste un concours qui ne dit pas son nom, mais c'est très sélectif. Et donc, il y a beaucoup de boîtes à colle, de boîtes privées, dont le montant d'adhésion annuel est parfois rédhibitoire pour un grand nombre de familles, qui ont une sorte de lobbying comme ça, ou, qui s'affiche comme étant absolument indispensable pour la réussite des élèves. Et moi, j'ai vu des mamans qui ne pouvaient pas, des mamans ou des familles qui ne pouvaient pas payer ces boîtes à colle à leur enfant, qui se rendaient malades à l'idée de faire perdre des chances à leur gamin, et qui, mais vraiment, ça a été, c'était très compliqué, et qui, voilà, culpabilisaient, alors qu'en fait, elles ont très bien réussi. J'ai deux filles en tête, là, deux jeunes qui sont en deuxième année de médecine aujourd'hui, et qui ont réussi grâce au tutorat. Parce que, donc, ces boîtes à colle, l'idée, c'est qu'en fait, elles créent une sorte de coaching hyper intensif auprès des élèves. Elles leur font des tests, etc., elles les maintiennent un peu stimulées, et donc, voilà, c'est un service qu'elles font payer très cher. Et en parallèle, depuis quelques années, depuis même de nombreuses années, la faculté a mis en place un système solidaire, où ce sont des élèves de deuxième année qui font ce job des boîtes à colle auprès des étudiants et qui les challenge, qui les coach, qui leur font faire des calls, comme on dit. Et c'est exactement la même chose que les boîtes à colle, voire mieux, parce qu'en fait, les élèves, les étudiants sont supportés, c'est-à-dire accompagnés par les profs. C'est leur cours, hein, c'est les profs des cours, ce seront les profs qui feront les épreuves, hein, donc c'est quand même, ça peut pas être mieux. Et donc, ils sont aidés par les profs. Et finalement, les analyses qui ont été faites, c'est que qu'on fasse une boîte à colle ou un tutorat uniquement, les chances de réussite sont identiques. En fait, ce qui compte, c'est de bosser, c'est d'avoir une méthode de travail, c'est d'être motivé, de rester motivé, de faire des annales. Et voilà, il n'y a pas photo. Hein. Donc, il n'y a pas une nécessité de boîte à colle, mais les boîtes à colle veulent faire croire que c'est une nécessité. Parce que forcément, il y a un enjeu derrière. Lucratif. Hein.
C'est ce que je veux dire, c'est du pognon. C'est un peu comme les mutuelles quand la sécurité sociale s'en va à petits pas. Et donc, 40 places qui sont disponibles en priorité pour les Ardéchois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ardéchois prioritaire, alors, résident en Ardèche. Voilà.
Oui.
Voilà. Oui, mais bon, parce qu'en fait, on draine toute l'Ardèche. Donc, par exemple, pour le tout sud, là, pour Saint-Andol, il y a eu des questions vers le Teil, par exemple, ce qui est limitrophe avec la Drôme. Ça a été une vraie question. Mais non, c'est son adresse postale de résidence ardéchoise qui peuvent candidater.
OK. Donc, toutes les infos, allez sur Parcoursup.
Oui, voilà. Alors, c'est très simple. Un moteur de recherche, vous tapez Université Claude Bernard Lyon 1, passe Aubenas, et vous tombez sur la page où vous avez aussi la retransmission du webinaire, du coup, du 12 décembre dernier, quand on a fait la journée porte ouverte, et l'après-midi, il y a le doyen Philippe Paparel de la faculté de Lyon Sud et le docteur Subtil, qui est le responsable pédagogique du PASS à Lyon Sud, qui sont venus présenter justement tout le déroulé, toutes les formalités Parcoursup, etc. Et donc c'est retransmissible, on avait enregistré, et donc on peut visionner cette séance d'information sur le site. Voilà. On a aussi les JES, les journées d'enseignement supérieur, je crois. Des acronymes, on est très fort en médecine, mais voilà.
Partout, tous les petits milieux adorent ça.
Ouais, c'est ça. Donc les JES le 30 décembre prochain, donc c'est très bientôt, de 14h à 17h à l'amphithéâtre de l'IFSI, au centre hospitalier d'Ardèche méridionale, qui est retransmis justement pour le PASS.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie Audigier. Et bravo encore pour ce travail collectif qui aboutit là à cette ouverture dès la rentrée 2025 de la première année de médecine à Aubenas. Incroyable. Merci encore. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Tu vois, non, mais on va finir parfaitement. à 12h30, la dernière de l'année, donc je le répète, il aura fallu tout ce temps. Restez à l'écoute de Fréquence 7. La suite des programmes, c'est le Telex. Y en a-t-il ? Non, il n'y en a pas. À 15h. Bon, que faites-vous ? Laissez vos annonces au 04 75 93 30 25. Nous ne serons plus là pour annoncer vos événements pendant 2 semaines. Donc, utilisez le Telex. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 19h, Éclectrique, qui vous emmène jusqu'au bout de la nuit. Cette émission est à réécouter également sur fréquence7.net. Merci Clara, merci d'avoir passé ces moments avec nous. Merci Sylvain, on se retrouve, allez quand même, on se retrouve le 6 ou le 7 ? Bon, lundi, le 1er, voilà, le 6 ou le 7, ah, il est plus de 30. À très vite, bonnes vacances à toutes et à tous. Ciao.